France Inter. On dirait que tu fermes les yeux, ils sont si beaux, ils sont si bleus. On dirait que tu rêves, en mieux. On dirait que je clôt les miens et qu'on se retrouve en chemin. On dirait qu'on est tous les deux, petite ma main, tu la tiens bien. On dirait qu'hier, c'est demain, qu'on a encore des choses à faire, des choses à se dire et d'autres à rire. On dirait qu'on n'a plus le temps, mais qu'on le prend encore un peu de toi, un peu d'enfance. On dirait que la vie commence. Oh oui, allez, on recommence. Mais tout pareil, hein, on change rien. Sauf ce petit détail à la fin, celui qui te fait fermer les yeux, celui qui fait brûler les miens, celui qui fait que la vie s'éteint. Ah non, celui-là, je l'aime un peu moins. Faut arrêter la mort, ça craint. Eh, cherche un peu, trouve le moyen. Tu es mon père, tu sais tout faire. Alors rallume-la, la lumière.
France Inter. En marge.
Notte alta e sono sveglio. Sei sempre tu il mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo meglio. E più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti. Per questo amore che era un frutto acerbo. E adesso che ti voglio bene io ti perdo ancora, ancora, ancora. Perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te.
Je pourrais la laisser dérouler comme ça jusqu'à la fin. Hein. Je suis obligée de reprendre, mais j'en ai aucune envie. Mais si, quand même, pour vous présenter Benoît Cohen. Benoît Cohen, gratitude éternelle. Mais reconnaissance éternelle, amitié à vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Grâce à vous, on peut passer du décrescendo dans cette émission, non seulement par plaisir, par immense plaisir, mais parce qu'elle vous raconte cette chanson-là. Elle raconte quoi de vous?
Elle raconte mon enfance, mon adolescence, mes parents, mes frères. Elle raconte mon père particulièrement.
Votre père qui aimait ces chanteurs, ces urlatori, comme il les appelait, ces hurleurs, alors que lui était quand même quelqu'un d'assez, à l'opposé de ça, très pudique, un peu taiseux. Qu'est-ce qu'il leur trouvait à ces chanteurs-là?
Ben, en fait, je pense que ces chanteurs, ils exprimaient tout ce que lui n'exprimait pas. Mmh. Et lui nous avait offert, parce que il était d'une famille, il a vécu en Tunisie, il est né en Tunisie, puis ensuite il a vécu en France, mais il venait d'Italie, ses grands-parents, et ceux d'avant, et il nous a offert l'Italie. Il a offert l'Italie à mes frères, à moi, à ma mère. Et il nous a offert aussi toutes ces choses qu'il ne disait pas, parce que c'était un taiseux, c'était quelqu'un qui n'exprimait pas son amour par les mots. Il m'a jamais dit « je t'aime », par exemple. Et c'était l'Italie, c'est via l'Italie qu'il nous a donné tout cet amour.
Alors il est là, Eduardo De Crescenzo, en bonne place sur la bande-son de votre dernier livre, hein, formidable, formidable, c'est aussi le dernier mot de votre père prononcé, alors que vous veniez avec votre mère, avec vos frères, de l'accompagner jusqu'au bout, de l'aider peut-être même à mourir. On écrit pour retenir Benoît Cohen ou au contraire pour libérer quelque chose?
Là j'ai écrit ce livre pour à la fois retrouver, c'est-à-dire en fait je me suis rendu compte, enfin en tout cas c'est comme ça que moi j'ai fait mon deuil, que plus le temps passait, plus j'oubliais, et que cet oubli était en fait ce travail de deuil que je faisais, c'est-à-dire pour moins souffrir, eh ben j'y pensais moins, et donc je pensais de moins en moins à mon père, et ça m'a aidé aussi à passer et à supporter cette perte, qui a été quelque chose de très violent, comme ça l'est pour tout le monde, évidemment, mais l'oubli était quelque chose qui me posait problème quand même, et je m'en suis rendu compte, il m'a fallu 10 ans pour me rendre compte que je pensais de moins en moins à mon père et que c'était ça, ma manière de faire mon deuil. Et donc, je me suis dit qu'en écrivant un livre sur lui, je savais que comme j'avais décidé d'écrire sur sa mort, et ce serait un livre qui serait dur à écrire. Et en fait, ça n'a pas été dur. C'est un livre qui a été extrêmement agréable à écrire parce que j'ai passé du temps avec mon père. Et j'ai creusé, j'ai retrouvé des choses que j'avais oubliées, j'ai trouvé des choses en creusant aussi à côté, j'ai interrogé des gens de la famille, et donc ce travail d'archéologie, en fait, m'a permis de retrouver mon père, et peut-être même de le connaître encore mieux que quand il était vivant.
Votre père est mort il y a plus de 12 ans maintenant. Vous nous direz ce soir à quoi ressemblaient ces derniers jours. Quelle fut votre part active dans son départ? Comment vous l'avez décidé, préparé avec votre mère et vos frères? Mais au-delà de la figure paternelle, c'est vous que l'on devine entre vos lignes, vous que l'on voit enfant et puis adolescent, rêver d'architecture, devenir cinéaste, partir à New York, venir aujourd'hui jusqu'à nous. Alors dites-nous, Benoît Cohen, je vous tends ce miroir. Prenez le temps de vous regarder, s'il vous plaît. Que voyez-vous ou qui voyez-vous quand vous vous regardez?
Je vois quelqu'un d'un peu fatigué parce qu'il se trouve que je finis un film, là. Je suis dans les derniers jours de finition d'un film. Et j'ai
l'adaptation d'un récit autour de votre mère, Mohamed, ma mère et moi.
Oui, ma mère a accueilli pendant 2 ans chez elle un réfugié afghan, après la mort de mon père d'ailleurs. Et je viens de l'adapter en film avec Fanny Ardant dans le rôle de ma mère. Donc ça, c'était aussi un très beau cadeau. Et donc, je vois quelqu'un de fatigué. Je vois quelqu'un qui est je dirais une déclinaison de ce que je retrouve quand même la joie de vivre dont je vous parlais, ce que nos parents parce que c'est pas que mon père, ma mère aussi nous a transmis, et ce qui a fait de notre famille une famille assez extraordinaire, parce que on est toujours très liés et on a toujours traversé la vie, on a traversé les périodes heureuses et les coups durs ensemble, et j'ai l'impression que c'est là, c'est sur mon visage, et j'ai essayé de transmettre ça aussi à mes enfants, et je le vois en me regardant, voilà.
Est-ce que la mort de votre père a pu vous changer? Ce visage-là, est-ce qu'il est plus tout à fait le même? Qu'est-ce qu'elle a imprimé? Qu'est-ce que cet épisode-là de votre vie?
J'ai peut-être quelques rides en plus, oui, qui sont apparues, oui, et quelques cheveux gris, probablement. Oui, ça a été un moment clé, ça a été un moment extrêmement douloureux, ça a été...
Est-ce qu'on prend la place de, tout à coup, la place qui est laissée vacante? Vous êtes l'aîné, en plus.
Oui, mais j'ai pas eu trop l'impression de ça. J'ai eu plus l'impression de voilà, il y avait une vie avant et il y a eu une vie après, clairement. Il y a eu une rupture. C'est, j'en parle dans mon livre, c'est une famille, c'est comme un mobile, en fait. Et si on enlève un des éléments, forcément, l'équilibre se perd. Alors, on retrouve un autre équilibre, mais c'est pas le même. Et je pense que ça se voit sur le visage, et puis je pense sur le reste du corps et sur le reste de la famille, quoi. C'est, il faut réinventer une manière de vivre, de bouger, de se parler, de, enfin, voilà. Il manque un membre.
Reste un peu de lui en vous, reste un peu, beaucoup de lui dans ce récit formidable, avec en exergue cette phrase de René Char: avec ceux que nous aimons, nous avons cessé de parler, et ça n'est pas le silence. Yo.
Yo, baby, mets les grands phares, je veux voir leur visage quand ils passeront sous mes roues. Vrai bandit, j'incendie la zone où tu crois être safe, et je m'étendrai tous les jours. Et ensuite j'irai pêcher mes péchés, je veux pas les égarer, l'océan n'a pas d'humour. Au final, attiré par les abeilles, j'ai trouvé mon paradis. Terme, j'ai pas les mots. Weston flex, j'suis dans mon élément. Being straight dans tes sentiments. Négo, t'inquiète pas, la balle est dans mon camp. Dans 30 secondes, elle finira dans ta tente. Avoir ma gueule, il fait un temps de merde. Désolé, je suis juste impoli quand je vois tout le temps que je vais perdre à t'écouter. Dégâts causés par un missile. Je kifferais niquer le Mississippi. 666 sur ces bitches. Black sur le trône, queen avec des tresses. Loin du bas du bloc, mais je suis gangster. Tout en haut du globe quand les gens se crèvent. Faites avec des stars, ils passent du pop smoke. Fais pas genre tu viens, tu connais pas la Grèce. Dégainer le canon sur ces caniches. Ça sonne des mots qui me parlent. Bouche les deux oreilles si tu veux un conseil. Et à ce stade, y'a plus de comeback. Encore une autre vague. Yo, on fera comme si on pouvait tout arranger. La guerre a déjà... Il est clair, putain, Shuriaki. Des gosses craignent, flow d'Illuminati. J'parle pas, j'suis reconnaissant. Force aux négros bêtes qui font tomber le plug. Dieu seul met la fin du scénario. Y'aura pas d'horaire, ça sera que l'horreur. J'aurais peut-être la haine encore au paradis. Si j'avais une place au paradis, j'lui demanderais c'est quoi ces maladies.
c'est mes démons qui me parlent. Bouche les deux oreilles si tu veux un conseil. Et à ce stade, y'a plus de combat. Encore une autre vague. Ça c'est mes démons qui me parlent. Bouche les deux oreilles si tu veux un conseil. Et à ce stade, y'a plus de comeback.
Nubian Farlow varnish la piscine sur France Inter et partout en France, on s'est posé la question pendant des mois. Imaginez quelqu'un que vous aimez très fort, condamné par la médecine. La mort est à quelques mètres. Le reste du chemin sera sans doute douloureux, très douloureux. Enfreindrez-vous la loi? Aiderez-vous ce père, ce frère, cette compagne à mourir? Moi, je sais pas. J'ai toujours pas la réponse. Benoît Cohen et les siens ont choisi, et le père est parti. Cette histoire, aujourd'hui, est un récit formidable. Benoît Cohen est notre invité.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
De donner à David Ginola, le centré. C'est Kremenliev qui va récupérer ce ballon.
On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire.
Benef loin devant. Attention. Attention Kostadinov.
Oh but.
Oh à là 10 là secondes. Là 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 là.
C'est la fin.
Si je vous dis qu'on est le 17 novembre 93. Là, c'est sur TF1 avec Jean-Michel Larquet et Thierry Roland au commentaire. Oh là 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 là. Ça, c'est l'un des plus gros échecs de l'histoire du foot français. La France éliminée dans la toute dernière minute du match par la Bulgarie. Vous êtes où à ce moment-là, au moment où ça se passe?
Moi, je suis en tribune J bleue au Parc des Princes avec mon père et mes deux frères. Et comme depuis plusieurs années, on rate pas un match de l'équipe de France au Parc des Princes, c'est devenu un rituel. Et ce jour-là, on n'en revient pas. Et puis, ce qui est incroyable, et en même temps, c'est un moment extraordinaire. Moi, qui suis devenu cinéaste après, ça fait partie des moments qu'on n'oublie jamais. C'est-à-dire qu'il y a un stade de 50 000 personnes totalement silencieux. C'est-à-dire qu'on entendait les joueurs bulgares hurler sur la pelouse tellement personne ne faisait le moindre bruit et c'était un moment totalement suspendu, tragique, mais sublime quand même.
Votre père ne rate aucun match, lit l'équipe tous les matins sans exception. Vous écrivez, vous, le foot, c'est mon père. Pourquoi ce sport prend-il tant de place dans sa vie, à votre avis?
Alors, je sais pas pourquoi ce sport et pas un autre. Je pense que ça vient de ses racines italiennes, certainement. Oui. En tout cas, ce que je sais, c'est que nous, le foot, c'est ce qui nous a le plus réunis. On joue au foot tous les dimanches matins avec le reste de la famille, les cousins, les frères. C'était tous les matchs. Les matchs, quand c'était au Parc des Princes, c'était au Parc des Princes. Quand c'était à l'étranger, on l'a regardé à la télé. On a vraiment vécu des moments de communion incroyables autour du foot. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que moi, une fois que mon père est mort, et même un peu avant, j'ai du jour au lendemain quasiment plus regardé un seul match. Alors je regarde comme plein de gens les matchs importants, la Coupe du Monde, ça, mais j'ai aucune, ma passion pour le foot s'est quasiment éteinte. Pas tellement avec le décès de mon père, finalement, je pense qu'elle s'est éteinte quand j'ai quitté mes parents et que j'ai été vivre seul. J'avais plus cette connexion. Et du coup, ça s'est petit à petit évanoui.
C'est pas un intello, Bernard, pas un érudit. Sa culture, c'était la vie, écrivez-vous, et sa famille aussi. Lycée en Tunisie, il échoue au bac plusieurs fois avec mention plage, puis s'inscrit aux Beaux-Arts sans grande conviction pour suivre une fille. Ce parcours-là, qu'est-ce qu'il en dit?
Mais il en dit rien parce qu'en fait mon père ne parle pas ni
même de ça.
Mon père en fait a dû quitter la Tunisie à la fin des années 50 parce que juif et chassé de son pays et en fait il a décidé à partir du moment où il arrive en France de ne plus jamais regarder en arrière. Donc nous on s'est retrouvé avec cette histoire qu'on ne connaissait pas, ce pays qu'on a mis très très longtemps à découvrir parce qu'on a eu beau insister, il a jamais...
La Tunisie, hein, vous voulez dire.
La Tunisie, ouais. Il voulait pas retourner en Tunisie. Et puis, au-delà de la Tunisie, c'était aussi sa culture. On est des Cohen, on est des juifs tunisiens à l'origine. Et en fait, Mon père était athée et nous a jamais parlé non plus de la religion. Mais même pas que de la religion, de la culture juive. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai le nom le plus important de la culture juive. Ouais. Et pendant des années, je ne savais même pas ce que c'était.
Et ça fait quoi? Ça fait un manque? Ça fait un vide à combler? Ou c'est un point d'interrogation? C'est quoi?
Bah, d'abord, il y a des incompréhensions parce que quand même à l'école, il y avait quand même malgré tout pas mal de gamins antisémites qui vous lancent des insultes que vous comprenez pas forcément au départ. Après, quand vous vous renseignez un peu, vous avez compris. Et puis ensuite, c'est pas vraiment un manque. Finalement, on est avec lui, on est avec eux dans la vie. On va de l'avant, mais à un moment donné, plus tard, j'ai ressenti ce manque. J'ai ressenti ce manque parce que je me suis rendu compte que je me sentais juif, que j'étais pas moi non plus pas religieux, que en fait techniquement même comme ma mère n'est pas juive, je ne suis pas juif, mais je m'appelle Cohen. Et voilà, il y a une histoire. Et en fait, ça c'est quelque chose que j'ai essayé de rattraper plus tard.
Aussi taiseux que sa femme Marie-France est fantasque et créative, elle adore son humour et sa gentillesse, il admire sa pugnacité et sa joie de vivre. Entre ses 50 ans d'amour intact, elle a imaginé les choses les plus folles, il les a rendues possibles, écrivez-vous. Et ces choses, ce sera la marque Bonpoint et le concept store Merci. Bref, une réussite à tout point de vue. Vous vous dites quoi, vous, enfant, à les regarder, ces deux parents-là?
Je suis enfant, moi je suis l'aîné déjà, donc au début je suis un peu seul à les regarder, puis mes frères arrivent et on voit des gens qui... ont décidé d'être libres. C'est-à-dire qu'ils ont monté, elle, dans un premier temps, avec sa sœur, une petite marque de vêtements pour enfants qui s'appelait Bonbon à l'époque. Et en face, littéralement, rue de l'université, mon père et mon oncle montent une boutique qui s'appelle Point, qui est une boutique de meubles. et un jour, les vêtements marchaient bien, les meubles un peu moins bien. Et puis un jour, il y a un monsieur Bonbon, un monsieur Casse-Bonbon, qui vient et qui dit « Mais moi, je m'appelle monsieur Bonbon, vous n'avez pas le droit d'appeler votre boutique Bonbon. » Et eux, ils n'avaient aucune idée de ce qui juridiquement était possible ou pas, donc ils ont décidé de faire Bon Point, voilà. et ça a été un succès incroyable. Mais je les ai vus, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que je les ai vus toujours dans la recherche de rester dans une structure familiale, de jamais imaginer plus grand que ce qu'ils pouvaient à la fois gérer eux-mêmes. Mmh. Ils ont jamais eu la folie des grandeurs. Et ça nous a beaucoup, mes frères et moi, servi plus tard, c'est-à-dire de pouvoir prendre du plaisir à gérer des choses à taille humaine. Mmh. Et surtout, il y avait cette idée qui était une idée qui nous a, je pense, beaucoup servi, mes frères et moi, c'était l'idée d'être ses propres patrons. C'est-à-dire qu'on a vu nos parents toujours libres et on a voulu reproduire ça les uns les autres.
L'enfance a le goût du gelato al limone, à la glace au citron, la maison sent bon, la confiture de framboise de votre mère et dans les couloirs résonnent les cavalcades des trois frères. Vous êtes l'aîné, vivant, joyeux comme Marie-France, pour qui vous êtes un livre ouvert. Livre ouvert toujours sur votre table de chevet, La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Au mur petit, vous accrochez Platini et puis plus tard, La main noire de la Mano Negra, on est un enfant des années 80 ou on ne l'est pas. Mais là, voilà, magie du cinéma, elle vous attrape, elle ne vous lâchera pas. Du plat de son poster, le maître Tarkovski vous regarde dormir, vous rêvez de César, surtout de Rosalie, le lauréat, c'est vous, et l'élu Monica, parce que cette voix, mon Dieu, cette voix.
Monica.
Monica Ingmar Bergman avec la voix donc d'Harriette Anderson. Ce film, c'est une balise dans votre vie. Pourquoi ?
En fait, moi, j'étais destiné à faire des études d'architecture parce que depuis l'âge de 6 ans, je rêvais d'être architecte. Et en fait, je me suis rendu compte en même temps de ce qu'était le cinéma parce que je n'allais pas tellement au cinéma petit. Et puis un jour, j'ai commencé à y aller et c'est devenu une drogue. Et en même temps, et je me suis rendu compte que l'architecture était parfaite pour moi. Je voulais être un artiste. Et en fait, l'architecture, c'est 90% de technique et 10% d'art, je dirais. Et donc, j'ai très vite abandonné l'architecture et je me suis engouffré dans ce nouveau métier qui était le cinéma. Et il se trouve que celui qui m'a probablement le plus marqué quand j'avais 16-17 ans, j'étais un peu mélancolique et il y avait à ce moment-là un festival Ingmar Bergman au Saint-André des Arts et donc j'ai vu tous les films. Bergman, il a fait une soixantaine de films quand même, donc j'ai vu tous ces films et c'était mon entrée dans le monde du cinéma, c'est faite par Ingmar Bergman.
Alors je crois que ce film vous parle d'amour aussi, d'un chagrin d'amour.
Alors il se trouve que pour aller au bout de ce fantasme suédois, j'ai en Tunisie d'ailleurs rencontré une Suédoise, à moitié tunisienne à moitié suédoise. et qu'on a eu une histoire d'amour qui n'est pas finalement très bien passée, et déjà à cause de la distance. Et donc voilà, il y a toujours eu quelque chose de très nostalgique avec la langue suédoise. Et donc voilà, quand j'entends des acteurs parler le suédois, ça, à chaque fois, ça me fait un petit quelque chose, ouais.
Alors, ça vous dit tout. Ça vous dit le cinéma, ça vous dit l'amour du cinéma. Le cinéma vous rattrapera un peu plus tard. Pour l'instant, c'est l'architecture qui vous tourne les bras. Vous êtes adepte du Corbusier. Vous rêvez de construire une ville utopique. Vous êtes étudiant. Et puis, c'est par des biais assez étranges, des virages de la vie, qui font que l'architecture, elle, remet l'amour et le cinéma dans votre vie. Vous allez comprendre. Michel Legrand, la bande-son du mépris, le thème de Camille, rien que ça, c'était le minimum pour cette rencontre dans ce train pour Venise ?
Oui, c'est sûr que pendant ce voyage à Venise, en fait, il se trouve que moi, j'étais accompagnateur. C'était une prof d'italien, toujours ouais. L'Italie, hein, qui avait organisé ce voyage. Et puis, dans ce train, il y avait Éléonore. Et Éléonore était étudiante à l'époque en première. D'ailleurs, c'était amusant parce qu'elle ne faisait pas italien, elle faisait allemand, mais elle avait réussi à s'incruster dans ce voyage. Et on a passé comme ça 2 jours à parler beaucoup, beaucoup de cinéma. On a même un peu à la manière de Jean-Pierre Léaud dans Les 400 coups, volé une affiche dans un cinéma de Venise, de Dan Bailo à l'époque, c'était. Mmh. Et on a passé 2 jours comme ça à être très amis. Mais il ne s'est rien passé d'autre que ça. Mmh. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand on est rentré de Venise, on a échangé nos numéros de téléphone. À l'époque, il n'y avait pas de portable, on les a marqués sur nos agendas. Et on ne s'est jamais rappelé.
C'est vrai.
Pendant 7 ans, on s'est pas appelé. Et il se trouve que 7 ans plus tard, moi, j'avais commencé déjà à faire des films. Et un jour, j'ai reçu un scénario à la production, un scénario de court-métrage qui s'appelait Quand on a que l'amour. Et voilà. Et on s'est revus à cette occasion. Et après, on s'est plus quittés.
Entre-temps, vous étiez parti à New York.
Enfin, j'étais parti faire des études de cinéma à New York. Ouais.
Tout à coup, il y a un déclic. Vous dites, non, mais en fait, l'archi, c'est pas pour moi. La France, c'est pas ça. Il me faut New York, il me faut le cinéma.
C'était pas il me fallait New York, mais en fait j'étais pressé. J'avais déjà fait 2 ans d'études d'architecture. J'avais envie de faire du cinéma et puis j'ai toujours été assez pressé en fait comme garçon. Donc je voulais pas passer 3 ans à faire une Fémis ou autre école de cinéma. En plus il fallait que j'aille vite. Donc quelqu'un m'a parlé d'un stage de 6 mois à l'américaine, c'est-à-dire entre le premier jour et le dernier jour, on apprend tout du scénario à la copie zéro du film. Et donc j'ai été là-bas, j'ai eu la chance parce que mon oncle, j'ai un oncle qui vit aux États-Unis qui a pu m'héberger. Et puis du coup, j'ai fait cette école et je suis revenu avec un premier court-métrage. Et puis ça a commencé comme ça en fait.
Et puis vous enchaînerez sur le long, Caméléon avec Chiara Mastroianni. Et une certaine Éléonore sera la coach de votre acteur principal, c'est Seymour Cassel, c'est ça ?
Oui, alors c'était pas l'acteur principal, mais c'était un des acteurs importants du film, parce que j'avais, alors là, pour le coup, en totale naïveté, moi, fan de John Cassavetes, j'avais écrit une lettre, parce qu'à l'époque, c'était pas de mail non plus, c'était une lettre, donc à Seymour Cassel, à Los Angeles, qui, en me disant, j'ai un petit rôle pour vous dans mon film, et ben il m'avait répondu, et il avait débarqué à Paris, et il se trouve que j'avais besoin d'une coach pour s'occuper à la fois de le diriger un peu et de lui apprendre son texte, parce qu'il parlait pas du tout français, et Léonore, qui à cette époque faisait des études de traduction, et qui venait de faire une maîtrise sur John Cassavetes, voilà, c'est occupé de lui.
Et voilà comment la boucle se boucle. À Éléonore, 7 ans après votre première rencontre, vous dites, enfin, la légende veut que vous lui ayez dit, viens, on va faire de beaux films et de beaux enfants ensemble. Ah, et puis aussi, on ira en Italie à la technique. Benjamin Troncin, la réalisation Laurent Polleret, Ophélie Fivier, chargé de programmation, et ça, c'est Poupe Soudinoy sur nous. Pépite, Madeleine, appelez ça comme vous voulez, mais surtout, profitez.
Soudinoy, ci avresti scommesso tu, Soudinoy. Mi vendi un sorriso tu se lo vuoi cantare, sognare, sperare così. Su di noi gli amici dicevano no, vedrai è tutto sbagliato. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola. Su di noi se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove si va, noi due respirando lo stesso momento, puoi fare l'amore qua e là, mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu, adesso ci siamo, fai presto, ti amo.
propos Soudinoï, Benoît Cohen, pourquoi cette chanson-là en particulier ?
Ah ben ça, c'est la chanson qu'on écoutait à chaque fois qu'on passait la frontière italienne avec la voiture. C'est la première qu'on mettait.
Ah oui.
Ah oui, c'était on lançait les vacances et c'était le coup d'envoi des vacances. Soudinoï, ouais, voilà, et c'était après en boucle.
Ben, je vais vous faire quitter les vacances pour nous raconter la suite.
France Inter. En marge.
Nous voilà donc en 2009, fin 2009, vous avez 40 ans, votre film Nos Enfants Chéris a été adapté en série pour Canal, de ce côté ça marche plutôt bien, mais il y a comme un cap à passer, voudriez-vous sortir de la comédie, faire du polar, ça coince un peu, et c'est le moment où Éléonore aussi décide de passer derrière la caméra, alors évidemment ça tiraille aussi, bref, c'est dans un contexte, je dirais, globalement un peu laborieux, c'est ça, à ce moment-là.
C'est un ensemble de choses, c'est-à-dire qu'on a avec Nos Enfants Chéris, eu un succès très important, c'est devenu une série. On faisait ces films-là avec, je dis Éléonore d'ailleurs, c'est Éléonore Pouria qui est aussi réalisatrice et écrivaine. Et on a fait tous ces films ensemble et on écrivait ensemble. Elle jouait parce qu'elle était actrice en plus à l'époque. Et moi, je réalisais. Et puis à un moment donné, ce système qui, moi, me plaisait beaucoup parce que c'était assez pratique finalement, puis à la fin c'était un film de Benoît Cohen, donc elle en a eu marre à un moment donné.
Et donc, bizarrement.
Et donc elle a décidé de faire un film, et au début moi je trouvais ça génial, je l'ai même encouragé, etc. Et en fait je me suis rendu compte que ça coinçait quelque part, mais c'est donc vrai. J'ai mis pas mal de temps à me faire à cette idée, j'ai été obligé de le reconnaître.
Et c'est à ce moment-là que votre vie connaîtra un petit coup d'accélérateur, votre mère vous appelle, votre père est malade, cancer du pancréas à 68 ans, vos premières pensées c'est quoi? Au moment où vous raccrochez, vous posez le téléphone, vous vous dites quoi?
Je me dis, il va pas mourir, même si je sais que, malheureusement, parce que dans la famille, il y a eu d'autres, plusieurs sœurs de ma mère, ma grand-mère, ma grand-tante, toutes ces femmes sont mortes du même cancer, parce qu'il y avait une sorte de malédiction génétique dans la famille de ma mère. Je sais qu'on meurt du cancer, et je l'ai vu.
Mais pas lui.
Mais pas lui, et surtout que c'était très étrange parce que mon oncle d'Amérique, à l'époque où ça se faisait peu en France, avait fait un test génétique à toutes les femmes de la famille et ma mère était la seule à ne pas avoir le gène. Donc on se sentait protégé, on se sentait un peu invincible. Et le fait que ça arrive par mon père, c'était complètement fou, quoi. Et donc voilà, je me suis dit, il va pas mourir, mais en fait, au fond de moi-même, je pense que je savais que, en plus, il se trouve que c'était un cancer du pancréas, donc on sait que c'est probablement le pire des cancers. Donc, je suis complètement abasourdi. Je suis à ce moment-là dans une fête que j'ai organisée pour l'inauguration des nouveaux bureaux de production. Donc en fait, je bois un grand verre de vodka cul sec et puis je m'effondre, quoi.
Au départ, la perspective est plutôt bonne. Hein. Cela dit, le cancer de votre père a été découvert assez tôt et il est opérable. L'opération est compliquée, mais elle s'est bien passée. Alors, au mois de juin, tout le monde file en Afrique du Sud. Je pense que toute personne vivante en 2010 se souvient parfaitement de ces sons qu'on appelle vuvuzela. On est en pleine Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Il y a vos frères, votre mère, votre père. Qu'est-ce que toute la famille de Cohen fait là-bas?
Alors, le foot, toujours le foot. Donc en fait, quand on a appris que mon père était malade, c'était juste avant Noël, et avec mes frères, on s'est dit que probablement le plus beau cadeau qu'on pouvait lui faire, c'était un voyage en Afrique du Sud pour aller voir cette Coupe du Monde. Il n'y avait pas ma mère, justement. C'était justement l'idée, c'est de faire un voyage, lui, juste notre père et les trois fils. Ce qu'on n'avait jamais fait. Et on a organisé ça. Sauf qu'on ne savait pas du tout si en juin, il serait toujours là. On ne savait pas dans quel état il serait. Donc, il se trouve qu'en juin, quand la Coupe du Monde a démarré, il était en état de faire ce voyage. Et qu'on a fait ce voyage où on a passé comme ça 10 jours absolument extraordinaires, tous les quatre. Et il est mort 2 mois plus tard.
Alors, vous vivez, ce voyage différemment de tous les autres membres de la famille, parce que vous savez quelque chose que eux ne savent pas. C'est
oui, en fait, il se trouve que j'avais un lien particulier avec le chirurgien qui l'avait opéré, que c'était le frère du coproducteur avec qui j'avais fait Nos Enfants Chéris, justement, pour la télé. Et donc, il m'a appelé, sachant pas du tout où j'étais, mais il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais dans le taxi en train de partir à l'aéroport. Et là, il m'a annoncé qu'il y avait une récidive très violente, que le foie était touché, qu'en gros, on pourrait plus rien faire. Et quand je lui ai demandé combien de temps, il m'a dit quelques mois. Donc là, j'avais cette espèce de coup d'arrêt, de terrible. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, je suis tombé sur mes deux frères et mon père qui étaient ultra excité à l'idée de partir, habillé avec des maillots de l'équipe de France, chantant littéralement dans le dans l'aéroport. Et j'ai essayé, dans un premier temps, dans l'avion, de parler de ça à un de mes deux frères qui m'a dit « Non, non, écoute, on en parlera au retour, là, on va kiffer. » Et le deuxième, le soir à l'hôtel, pareil, m'a dit à peu près la même chose. Je veux rien savoir.
Et votre père, vous avez songé à lui en parler à ce moment-là ?
Impossible. Mon père, c'était impossible de lui parler de quoi que ce soit, puisque mon père a toujours refusé de parler de la maladie, de la mort, mais pas seulement de la sienne. Depuis toujours, depuis tout petit, oui. On ne parlait jamais de la mort. C'était quelque chose... Il y avait quelque chose de très superstitieux dans l'idée que parler de la mort pouvait nous porter malheur, parler des malheurs des autres pouvait nous porter malheur.
Ce qu'on ne nomme pas n'existe pas.
Ce qu'on ne nomme pas n'existe pas. Et il a tenu ça jusqu'au bout, c'est-à-dire que quand il a vu que ça commençait vraiment à pas être bon, il voulait plus avoir aucun résultat médical et il n'a rien voulu savoir jusqu'au bout.
Alors de toutes vos forces, vous vous concentrez sur la joie immense de votre père. Il est tellement vivant, il marche, il crie, il savoure chaque instant. Et puis il rentre, et vous rentrez, les chimios doivent reprendre à la rentrée, il passe l'été avec votre mère dans leur maison de campagne en Aveyron, jusqu'au 20 août très précisément. Là, votre père fait un malaise, il s'écroule, il faut rentrer à Paris. Physiquement, il en est où là ? Physiquement et moralement, en fait.
Physiquement, il est très faible, mais il est encore debout. Et moralement, il pense reprendre une nouvelle chimio à la rentrée, il pense que ça va le soigner. Jusqu'au bout, ce qu'il pensait réellement, je sais pas, mais jusqu'au bout, il veut croire que les choses vont s'arranger. Par exemple, quelques jours avant sa mort, il a commandé des billets pour partir toute la famille en vacances au soleil au mois de décembre. Et on est en septembre, là. Donc, pour vous dire à quel point le déni est fort.
Pour la première fois depuis le début de la maladie, vous voyez votre père avoir peur. Son déni est à la hauteur de ses angoisses. « Mon père n'est pourtant pas le genre de personne à éviter l'obstacle », écrivez-vous. « Il est courageux, il aime les défis, la négociation, soulever les montagnes, inverser les cours des choses. Mais face à la mort, il abdique. » Quel effet est-ce que cela vous fait, à vous, de voir le paternel abdiquer ?
Ça a commencé à partir du début de la maladie, à partir du moment où il a commencé à vraiment s'affaiblir. Ça a été quelque chose de terrible, parce que notre père, et c'était un rock, enfin c'était quelqu'un qui avait jamais été malade, avait jamais ce que je racontais par rapport à Gelato al Limon, c'est que la seule addiction que je connaissais, c'était la glace au citron, et sinon il buvait pas, il fumait pas, l'imaginer malade était quelque chose qui nous avait jamais passé par la tête. Et donc là tout d'un coup, de le voir s'affaiblir de jour en jour, c'était oui, extrêmement violent. Ouais.
Alors, vos frères, votre mère et vous mettez en ordre de marche votre mission, que votre père souffre le moins possible. Ça veut dire lui cacher coûte que coûte qu'il n'en a plus que pour quelques semaines à vivre et construire autour de lui un environnement, un quotidien qui lui soit doux autant que faire se peut. Alors, on lui installe un lit dans le salon qu'on transforme en salle de projection. Et sur l'écran, par exemple, L'argent de la vieille de Comencini. Anyway, encore un bout d'Italie.
Fare a partita?
Fammi se 10.000 lire così.
Fammi un par di milioni, no?
2 milioni?
Sì, tutti.
Hai voluto tu, eh?
Antonia!
E oui, on parle encore de lire. Votre père? Ça lui fait du bien, ça, par exemple? Ce que vous essayez de mettre en place pour lui, vous avez le sentiment que ça a un effet quelconque sur lui?
Ah bah oui, ça lui fait du bien, le temps d'un film, le temps d'une pâte à la sauce tomate. Mais, mais on voit bien qu'il décline, hein. De jour en jour, et on essaye de continuer à y croire, nous aussi, hein, même si on essaie de continuer à croire, mais on essaye quand même de, voilà, le médecin nous a dit que il y en avait plus pour longtemps, le médecin nous a dit qu'il allait probablement beaucoup souffrir, alors il ferait ce qu'il pourrait, hein.
Quand on vous dit, il y en a plus que pour une semaine à peu près, ce que vous dit le médecin, à un moment donné, il vous dit que les souffrances vont encore croître, les souffrances de votre père qui sont déjà intenses, vous prenez une décision. Faites un conseil de famille, prenez une décision. Qu'est-ce que vous décidez pour eux, pour votre père ?
On essaie de trouver, on se dit quelles sont les solutions pour qu'il ne souffre plus, en fait. Pas moins, mais plus. Et comment faire en sorte qu'en fait, on arrive à abréger ses souffrances. Et pour abréger ses souffrances, on pense abréger sa vie. Mais après, le problème, à partir de ce moment-là, c'est les obstacles. C'est-à-dire qu'en fait, prendre cette décision, c'est une chose. Et après, on est naïf à ce moment-là. On se dit, évidemment, que quand quelqu'un souffre et qu'il n'en reste plus que quelques jours ou quelques heures à vivre, on doit pouvoir trouver un moyen d'abréger ça. Et en fait, non. En fait, la réalité, c'est qu'en en France aujourd'hui, alors il y a une loi en ce moment qui est discutée, et j'espère qu'elle aboutira à quelque chose, mais en tout cas encore plus en 2010 qu'aujourd'hui, mais encore aujourd'hui en 2023, au moment où je vous parle, on ne peut pas faire ça. Abréger la vie de quelqu'un de 2 heures, c'est considéré comme un meurtre. Et d'ailleurs, le livre que j'ai écrit, je l'ai écrit d'abord, le début de l'envie d'écrire ce livre, ça a été le jour où j'ai appris ça. Un jour, j'ai appris que ce qu'on avait voulu faire pour mon père était considéré comme un assassinat, pire qu'un meurtre, ce qui est après méditation. Ouais. Et j'ai commencé à faire des recherches, et j'ai vu des gens qui avaient fini aux assises pour ça. Alors, en général, ils sont acquittés parce que, mais quand même, on se retrouve en garde à vue, il y a un procès, enfin, je veux dire, c'est un meurtre. On est considéré comme un meurtrier.
Sauf que toutes ces questions-là, évidemment, sur le moment, vous n'avez pas le temps de vous les poser, parce qu'en fait, il y a urgence, il faut faire quelque chose. J'imagine que c'est d'autant plus compliqué que vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de votre père. Comment est-ce qu'on peut se mettre à la place de quelqu'un qui va mourir, mais qui ne le sait pas? Ça, c'est, ça en ajoute à la difficulté. Comment vous faites pour être sûr de ce que vous faites?
Bah, en fait, on connaît, et surtout ma mère a vécu quasiment 50 ans avec lui. Elle sait ses angoisses, elle sait ses envies, elle sait tout. Mieux que n'importe quel médecin, que n'importe quel législateur. Elle sait qu'il a jamais voulu parler de la mort, qu'il a jamais voulu, qu'il vient d'une famille où, c'est une cousine à moi qui a lu le livre dernièrement qui m'a dit: ton arrière-grand-père, quand quelqu'un rentrait dans la pièce et pour annoncer la mort de quelqu'un, il lui disait: sors d'ici. C'est-à-dire que la mort n'existait pas, elle ne devait pas être nommée, donc encore moins sa mort. Donc de toute façon, il ne voulait pas entendre parler, et puis il l'avait signifié, puisque dès qu'on voulait même lui donner des résultats d'analyse ou lui donner quelques informations que ce soit, il les refusait. Donc imaginez bien, c'est pour ça qu'on pouvait même pas parler de soins palliatifs. Soins palliatifs aurait voulu dire tu vas mourir.
Mais il avait même dit à votre mère: évite-moi ça. C'est-à-dire ces souffrances, la dégénérescence du corps. À un moment donné, ils avaient eu une conversation, je crois très brève, tous les deux. Pas le concernant lui, mais de manière générale, votre mère savait.
Oui, ma mère en plus savait, parce qu'il se trouve que quand une de mes tantes est morte chez mes parents, parce que ma mère s'est occupée d'elle jusqu'à son dernier souffle, et c'était assez terrible. Et mon père a vécu ça à ses côtés, et une fois que ma tante est morte, il lui a dit: je ne veux jamais vivre ça. Promets-moi que si ça c'était le cas, tu m'empêcherais de vivre ça. Et elle lui avait promis. Voilà. Mais c'était plusieurs années avant. Donc vous savez aussi, il faut se méfier, parce qu'il y a entre ce qu'on dit à un moment donné et puis ce qu'on veut réellement plus tard, le jour où on est vraiment... moi, je connais des cas de gens qui ont dit qu'ils voulaient en finir de la sorte, et qui, en fait, une fois dans la situation d'être sur le point de mourir, s'accrochent à tout prix. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est très compliqué. Il y a pas de certitude. D'ailleurs, dans mon livre, il n'y a aucune vérité. Je présente plusieurs vérités.
En tout cas, il faut faire vite et bien. Un premier médecin, votre beau-père anesthésiste, vous donnera une fiole contenant le produit devant la cathédrale de Notre-Dame. Un second médecin, le médecin de famille, le lui injectera. Il faudra juste lui dire qu'il a besoin d'une perfusion pour se réhydrater. Le médecin monte avec vous dans la chambre de votre père. Il lui demande: comment ça va cet après-midi? Coussi coussa, je vais te réinstaller la perfusion. Ah bon, pourquoi? Il vous regarde, votre père, vous lui faites un clin d'œil. Pour te réhydrater. Formidable. Formidable. Il a dit formidable, il a respiré 3 fois et puis il s'est endormi. Alors vous, le fils, vous pouvez lui dire bonne nuit, buonanotte, fiorellino.
Buonanotte, buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero. Il gran turco nei campi è maturo ed ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte, fiore.
Pour descendre au salon, Benoît Cohen, et ce mot formidable vous trotte dans la tête, qu'est-ce qu'il vous dit?
Ben, il dit ce que j'écris dans le livre, c'est-à-dire que formidable, tout d'un coup, pour moi, c'est mon père, quoi. Formidable, c'est ce qu'il nous a transmis. Formidable, c'est... Qu'est-ce qu'il nous dit à ce moment-là? Il nous dit que ce qu'on a vécu ensemble a été formidable. Il nous dit que ce que on a voulu faire pour lui était formidable. Il nous dit que voilà, que c'est que malgré tout, malgré la mort, malgré tout ce qu'on vient de traverser, on va continuer sans lui, mais on va continuer à faire en sorte que cette vie soit formidable. Et jusque-là, on avait réussi à ce qu'elle le soit, donc on s'applique encore aujourd'hui à continuer avec cet héritage de quelqu'un qui nous a vraiment appris la joie.
Quand vous évoquez ces tout derniers instants, vous parlez bien sûr d'une grande tristesse, mais pas que.
L'idée, c'est que quelqu'un qui meurt en douceur, forcément... Moi, j'ai vu mes tantes mourir de manière très dure, très douloureuse. Et quelqu'un qui meurt en douceur, forcément, ça console déjà un peu, quoi. Je veux dire, en fait, une des raisons pour lesquelles moi, je me suis engagé ces derniers mois aussi pour que la loi change, c'est que je pense que quand quelqu'un meurt dans des souffrances atroces, etc., l'image que vous gardez de cette personne... et modifié à jamais, c'est-à-dire on a beau avoir une vie entière et passer une vie entière avec quelqu'un, vivre des choses formidables justement, et si les dernières 24 heures sont abominables, souvent c'est ces images-là qui restent et que ces images de 24 heures de souffrance prennent le dessus sur 60 ans de vie, quoi.
Alors vous quittez la chambre, vous quittez un père apaisé, vous descendez au salon, c'est vous qui prévenez les autres, vos frères et votre mère. À leur tour, ils vont monter, vous remercierez le médecin qui vous dira que bien mourir, c'est aussi important que bien vivre. Ou alors vous avez cherché une place en soins palliatifs et vous n'en avez pas trouvé. Vous avez regardé votre père agoniser et à la toute fin, il était comme mort, mais la douleur en plus. Ça, c'est le second scénario que vous proposez dans votre livre. On ne dira pas précisément ce qui s'est passé. La vérité est quelque part entre les deux.
Bah, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on peut avoir rêvé et c'est cette fin formidable. Et il y a ce qui se passe la plupart du temps. Et qui s'est passé, moi, plusieurs fois dans ma vie. La vérité, elle est un peu entre ces deux scénarios. Mais j'avais surtout envie de proposer cette douceur.
Vous êtes en marge, vous êtes sur France Inter, et ça, c'est Gabriel's Offering.
Don't want your love and want no more. I want to sacrifice. I've shown and proved that I pay my dues. Won't let you get me twice. Mama ain't raised no fool, I know you're Shaquille and Mockingbird Brown. My daddy taught me a thing or two. You better heed my advice.
Give me something.
Show me this thing was made. Thank you.
Offering, Gabriel's troisième et dernier titre de notre balade musicale du côté de la marge avec vous, Benoît Cohen, ce soir. Comme tous les samedis, notre programmation musicale est signée Djoubaka. Et un jour, ouais, j'irai à New York avec toi.
En marge. Sur France Inter.
W-E-L-O-V-E
108
FM.
Ans après votre premier voyage, vous êtes reparti vous installer à New York. Pourquoi ? Il y a comme une envie de mettre des kilomètres entre soi et quoi ?
C'était 4 ans après la mort de mon père. C'était un moment où j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de mon métier de cinéaste en France. J'étais à un endroit qui ne me convenait pas tout à fait. J'avais eu ce succès avec Nos Enfants Chéris. Tout le monde voulait que je refasse de la comédie. Je n'arrivais pas à monter tellement d'autres projets. J'ai fait d'autres films, mais bon, voilà, j'ai eu besoin d'un nouveau départ. Et il se trouve que, justement, le dernier film que je venais de faire, qui s'appelait Tu seras un homme, qui était un tout petit film indépendant, a fait 3 entrées à Paris et par contre a cartonné dans les festivals américains. Depuis des années, avec Eleonore, on parlait. Il se trouve qu'on avait été pour notre voyage de noces à New York, elle n'avait jamais été avant elle. Et qu'en sortant de ce voyage, on a dit un jour, on ira habiter à New York. Et ça faisait des années qu'on en parlait, puis il y a eu les enfants, puis il y a eu les films, puis c'était jamais le bon moment. Et là, il y a eu un moment donné, on s'est dit, allez, c'est maintenant.
Est-ce que la mort de votre père a pu servir de déclencheur aussi ? A pu jouer ?
Je pense que ça a servi de déclencheur dans le sens où j'avais vraiment besoin de quelque chose d'autre. Je sentais que je n'étais plus heureux à Paris et qu'il y avait il fallait inventer autre chose. Et New York s'est présenté comme une évidence, mais je ne soupçonnais pas à quel point ça deviendrait non seulement ma deuxième maison, mais même ma première. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me sens plus chez moi à Brooklyn qu'à Paris, bizarrement, parce que j'ai vécu que 7 ans là-bas.
C'est là que vous êtes devenu écrivain avec votre premier livre, Yellow Cab, que je recommande à tous et à toutes. Vous faites l'expérience pour les besoins d'un scénario d'être au volant d'un taxi, et c'est ça que vous racontez dans ce livre-là. Et puis suivra Mohamed, ma mère et moi. C'est-à-dire que, d'une manière ou d'une autre, New York vous permet d'être écrivain. Qu'est-ce que ça autorise, ce départ-là ? Ou cette nouvelle vie ?
Déjà, c'est vrai que le fait d'avoir conduit ce taxi, qui était quelque chose de complètement improbable, c'est-à-dire que j'aurais jamais fait ça à Paris, et puis je l'ai fait, j'ai pris le temps de le faire, je l'ai fait pendant 6 mois, j'ai écrit quotidiennement au volant de ce taxi jaune, et je pensais que ça deviendrait un scénario, c'est devenu un livre, et donc je suis devenu écrivain par accident, et en même temps, je me suis rendu compte que je me suis autorisé quelque chose que je me serais jamais autorisé à Paris, et c'est ça New York. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de tout est possible qui semble un peu galvaudée, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on peut tout s'autoriser. Et je suis devenu écrivain, qui était une sorte de fantasme même pas assumé. C'est-à-dire que j'étais très loin caché dans mon inconscient parce que je lis beaucoup et j'adore lire, et que tout d'un coup, je me suis retrouvé publié chez Flammarion. Je me suis retrouvé avec un deuxième livre au moment où ma mère accueille Mohamed chez elle. Et que Trump est élu aussi, ce qui a été une tragédie pour nous, parce qu'on est arrivé sous Obama, c'était le rêve américain, et puis tout d'un coup, ça a un peu déchanté. Et je l'ai transformé en un livre, puisque je raconte, quand c'est Mohamed, ma mère et moi, c'est-à-dire que je raconte en parallèle l'histoire de Mohamed, avec son exil terrible et mon exil doré, et etc. Donc en fait, New York m'a... je me suis autorisé des choses que je ne me serais pas autorisé ici. Et je suis devenu écrivain.
Et le voilà, ce quatrième livre, formidable. Dans ce livre, le dernier, vous faites dire à quelqu'un qui travaille autour des soins palliatifs, le soleil et la mort ne peuvent pas être regardés très longtemps en face. La plupart des malades espèrent un miracle jusqu'au bout. Votre miracle, à vous, Benoît Cohen, s'appellerait l'éternité. Vous y emmèneriez Schubert avec vous. Vous avez reconnu, je suppose.
Oui.
Je vous laisse nous le dire.
Non, mais en fait, si vous voulez, je suis. C'est amusant parce que j'ai pas tellement écouté de musique classique toute ma vie. Certainement pas quand j'étais enfant, parce que mes parents écoutaient jamais de musique classique. Et j'ai Et c'est pourtant probablement ce qui me touche le plus aujourd'hui. Mais
c'est le quintet à cordes en do majeur, hein, interprété par Anne Gastien. Et celui-là en particulier, pourquoi ?
Celui-là en particulier, il se trouve que je l'ai vu interprété par Anne Gastinel, entre autres, il n'y a pas longtemps au Bouffes du Nord. Et voilà, et c'est un des plus beaux moments de musique auquel j'ai jamais assisté. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là.
Alors, Schubert, ok, d'un côté. De l'autre, s'il y avait un objet que vous pourriez emmener avec vous et jusqu'au bout, ce serait ?
C'est une râpe à parmesan.
Ok.
Parce que j'adore cuisiner. Une fois de plus, on revient à l'Italie. J'aime cuisiner les pâtes, j'aime cuisiner le risotto. Voilà, donc
Est-ce que vous pouvez tuer à main nue pour une pâte trop cuite ? Je dis bien une pâte.
Non, alors, je ne pourrais pas tuer à main nue parce que je ne suis pas quelqu'un de violent, mais, mais c'est vrai que j'ai toujours mangé les pâtes al dente et que c'est très désagréable quand ce n'est pas le cas.
Dit-il quand même en polissant sa râpe qui pourrait être un couteau, donc je ne suis pas quelqu'un de violent, enfin, il ne faut quand même pas le chatouiller du côté de la pasta.
Mais
quoi.
Je vous avoue que la personne qui était à la sécurité de la maison de la radio quand je suis arrivé avec ma râpe à parmesan était assez étonnée.
Et celle-là, c'est une râpe fétiche ou pas plus que ça ?
Celle-là, c'est une râpe particulière, c'est une microplane. Alors, c'est pas une râpe italienne, c'est une râpe américaine. C'est une râpe qui fait un parmesan très très fin, très léger, exceptionnel. Vous la connaissez pas ?
Non.
Et je vous l'offre.
Non. C'est vrai ?
Voilà.
C'est franchement un très très beau cadeau. Vous ne mesurez pas. Génial. Et donc, elle fait un parmesan très très fin.
Elle fait un parmesan très très fin, aérien.
Ah ouais.
C'est absolument
génial,
extraordinaire. Et pour par exemple des pâtes à la ciociara, parce que moi c'est mes préférés, ouais. Les pâtes aux artichauts. Voilà, vous mettez un petit coup de parmesan comme ça par-dessus et c'est le rêve.
Oh, j'ai très très faim. En marge, c'est terminé pour ce soir. Merci infiniment Benoît Cohen. Plein de bonnes choses à vous et aux vôtres. Formidable. Votre dernier livre est édité chez Flammarion. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.